Musique du Monde. Laurence Alloa. Musique du Monde sur RFI.
Bienvenue dans Musique du Monde avec deux sessions live aujourd'hui, donc deux groupes, Eda Diaz et Toner et Bikai. Les Congolois atterriront dans le grand studio d'ici 25 minutes et notre première invitée est une artiste franco-colombienne, elle s'appelle donc Eda Diaz. Suave Bruta, c'est son premier album, c'est un grand écart atlantique tout à fait réussi. Eda Diaz est une artiste RFI Talent, elle sera en concert à Paris le 5 mars au Café de la Danse. C'est un concert qui sera filmé par RFI Vidéo et comme on la filme aussi dans la session live, elle va squatter les réseaux sociaux de la chaîne toute la semaine et plus encore. Elle est accompagnée par ses musiciens. Elle est en piste pour le titre Tiemblas. Bonsoir.
Nena, dime qué diferencia hay entre albas y crepúsculos. Dime, 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 nenita, cómo lo confundilos. Nena, porque muchos lamentan los descensos sin ver más lo que nace. Porque pisan la raíz y en la tan sueños. Y ven la tumba en la cuna. Dime, dime, dime. Dime, dime si nena a ti te asusta la luna. Viene porque otros se obsesionan con lo nuevo sin verlos en el muere. Y echan libres a huecuitiman troncos y esconden lo que. Dime si solo la primavera luce. No puedes correr.
Media luz el Bonsoir tout le monde.
Eda Diaz sur RFI dans la session live.
Oui, c'est très bien.
La session live. Musique du monde.
Eda Diaz qui revient avec un nouvel album, Suave Bruta, enfin un nouvel album, c'est son premier album. Mais vous étiez venu en 2018 nous présenter un EP de mémoire.
Oui, en janvier 2018, tout à fait.
Le titre que vous venez d'interpréter avec vos musiciens, c'est le titre Tiemblas. Alors je vais quand même donner le nom des musiciens. Anthony Wiesenried, qui était au clavier.
Il fait de la guitare aussi, il fait beaucoup de choses, il fait tout.
Il y a aussi Climène Zarco et Baptiste de Chabanet,
oui, ou Chabanex,
qui était à la batterie. Vous êtes venu avec une contrebasse miniature. Je vous félicite, vous aurez beaucoup moins de problèmes avec la SNCF, qui est notre société nationale des chemins de fer, qui déteste les contrebasses. Non, je dis ça parce que j'ai beaucoup d'amis musiciens contrebassistes qui ont été très embêtés avec les trains. Donc quand on peut le souligner de temps en temps, c'est bien. S'ils peuvent faire quelque chose, c'est encore mieux.
S'il vous plaît.
Et ce nouvel album, Suave Bruta, on parle de douceur et de brutalité dans le même titre.
Douce brute, oui. Ça, alors Suave Bruta, c'est le titre que j'aime beaucoup de Joe Arroyo, el salsero.
Ah, Joe Arroyo. Voilà, c'est un extrait de Suave Bruta de votre ami Joe Arroyo. Enfin, je dis votre ami, il est décédé en 2011. Un homme plein d'excès. C'était une méga star en Colombie. Mais alors, j'ai vu, je suis allée voir un peu sa biographie. Alcool, sexe, rock'n'roll, drogue. Enfin, rock'n'roll, non, salsa and roll.
Oui,
il a bien vécu, mais il est mort jeune.
Ça, je crois que c'est un peu l'histoire des salseros en général. Je pense pas que ce soit que lui. C'est toute une époque, n'est-ce pas? Mais non, surtout, grand représentant de l'afro-colombianité, avec des thèmes aussi très sérieux. Dans la salsa, et puis une voix assez extraordinaire, très reconnaissable. Et voilà, avec Oscar de León, qui est mon autre référent en salsa, puisqu'il lui en plus jouait de la baby bass en même temps qu'il chantait, donc c'est quand même la grande classe, et faisait des chorégraphies. Voilà, donc en tout cas, Suave Bruta, c'est une petite référence évidemment à mes origines et à la salsa que j'aime beaucoup, mais aussi ça parle de beaucoup de contradictions et d'une sensation d'être toujours appelé d'un côté et de l'autre sans pouvoir trouver sa place. Et je pense que là, c'est une façon de dire, eh ben, les deux vont cohabiter ensemble dans un même corps, dans une même âme, et ça me va très bien.
Vous pensez que c'est le problème de tous les gens qui sont binationaux, qui ont deux cultures?
Je sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, c'est ce qui nous interroge beaucoup dans la musique. C'est ce qui peut-être nous amène à parler, à vouloir représenter notre monde. Et c'est quelque chose que j'avais envie de partager, et au-delà même de le partager avec mon album, de pouvoir ouvrir cette conversation avec d'autres personnes qui vivent ou qui grandissent avec plusieurs cultures, et de voir comment elles le vivent, qu'est-ce que ça crée dans leur monde. Moi, je trouve ça vraiment passionnant.
Alors, celui qui était de l'aventure depuis le début, Anthony Wiesenried, qui avant était un membre éminent de ce groupe très rigolo et super bon qui s'appelait les Threesome Sisters, lui c'était plutôt la partie
instrumentale.
Oui. C'est avec lui que vous avez trouvé ce son?
Oui, je pense que c'est vraiment notre rencontre qui m'a permis d'aller chercher ce côté aussi plus contemporain que je ne savais pas peut-être au départ comment chanter, et surtout de faire de la musique à temps plein. Enfin, c'était pas du tout mon projet à la base. Et voilà, des rencontres comme Natasha Rogers, comme Anthony Wiesenried, m'ont amenée à devenir musicienne et à professionnellement, parce que j'ai toujours fait de la musique, mais en tout cas voilà. Et c'est avec lui qu'on a créé cet univers entre l'expérimentation d'univers sonore électro et la traduction que j'aime beaucoup. Et lui aussi, finalement, il a beaucoup gravité avec New Vert, avec Tequere, dans la musique latine. Voilà.
Dans la note, pas une note d'intention, mais ce qui présente ce nouvel album, j'ai vu qu'il y avait des bouts de Carlos Gardel, des bouts de Sœur Goadec. Alors, Sœur Goadec, je suis quand même restée assise sur mon siège, et Sœur Goadec, c'est vieille chanson bretonne, c'était deux ou trois sœurs avec le fichu sur la tête. Enfin, c'est vraiment un autre monde. Hein. J'ai cherché, moi, les sœurs Goadec sur le titre qui était indiqué. Je ne les ai jamais trouvées.
Alors, c'est très difficile d'expliquer quel a été le process de cet album. Mais on s'est beaucoup amusé avec de la matière sonore. Des matières sonores qui me parlent. Donc, par exemple, dans Tiemblas, qu'on vient d'écouter, il y a l'accordéon, un tout petit bout d'accordéon qui m'a permis après de l'étirer, d'en faire une sorte de matière sonore qu'on peut malaxer, comme de la cuisine. un peu. Avec les sœurs Guadec, je me suis amusée à recréer un clavier avec des bouts de voix. Et ça a donné un titre qui s'appelle Al Pelo, qui aussi fait référence à la salsa, puisque chaque morceau fait référence à un bout de tradition qui m'a beaucoup plu et que, voilà, que j'ai fait mien d'une certaine façon, que j'ai réactualisé à ma sauce, à notre sauce aussi avec Anto, qui a mis son petit bout et ses piments et ses choses. Et donc voilà, on a fait ça ensemble, on s'est beaucoup amusé à le faire. Et les sœurs Guadec sont là.
Sabana y Banano, ça n'a rien à voir avec les sœurs Guadec, mais c'est très bien aussi. Alors, à quelle esthétique vous êtes rabattu sur ce titre Sabana y Banano?
Voilà, ah oui, c'est dembo. Enfin, quand je dis ça, c'est que là, cette rythmique, elle réunit tellement, enfin, l'Amérique latine, les Caraïbes et l'Afrique, que c'est difficile de savoir d'où ça vient à la base, toute base, mais c'est tellement partout dans toutes les musiques latines. Il y a surtout aussi une nouvelle masse sonore qui nous a servi de clavier, qui a été prise dans les vieux disques des années 50 que j'adore, que j'ai écouté, ma famille de Lucho Bermúdez par exemple, qui faisait de la cumbia type, c'est toute cette époque avec les grands orchestres dont on jouait des boléros, des tangos, des cumbias avec les clarinettes et tout ça. Ben là, il y a un bout de cette masse sonore de clarinettes et de brass band qui a été utilisé pour faire un clavier. Et il y a aussi Robbie Marshall qui nous a rejoint pour faire quelques clarinettes en plus, mais qu'il a joué pour le coup. Donc voilà, il y a toujours des petites références à des choses qui m'ont marqué dans la musique que j'ai écoutée petite.
Vous, votre famille, côté papa, c'est Medellin ?
Medellin, ouais.
Vous y allez de temps en temps ou...
Tous les ans. Ah oui. Si j'y vais pas, je me sens mal en fait. J'ai besoin de me recharger. D'abord.
Vous faites penser à vous connaissez très probablement, vous faites penser à la Chica.
Je pense qu'on a une histoire très commune, Venezuela et Colombie. On en parle régulièrement avec la Chica, parce que je joue un peu avec elle en ce moment dans l'orchestre El Duende. Et c'est vrai que voilà, entre Vénézuéliens et Colombiens, on s'est toujours finalement retrouvés à s'épauler, parce qu'on n'a pas vécu les crises au même moment. Et donc il y a des millions de Vénézuéliens en Colombie en ce moment, et on sait que probablement ça peut arriver, que ça rechange malheureusement, et qu'on soit obligé de tout le temps essayer de lutter. Mais en fait, on est vraiment un peuple frère. On ne sait pas vraiment pourquoi il y a une frontière, d'ailleurs, on se demande parfois.
La contrebasse, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez des références d'artistes qui étaient à la fois chanteurs et contrebassistes. J'ai oublié son nom, d'ailleurs.
Oscar de León. En fait, c'est très vieux, cette histoire de contrebasse. contrebasse. C'est, j'ai voulu en faire quand j'étais très petite, quand je faisais de l'éveil musical au conservatoire de Beauvais. Voilà, rien de très latino.
À une heure de Paris.
À une heure de Paris. Et,
Qu'est-ce qu'on fait dans l'éveil musical ?
Mais on danse, on touche des trucs, on fait du son avec, on tape dessus.
Et vous avez tripoté une contrebasse ?
Ben non, mais par contre, il y avait des concerts auxquels on pouvait aller avec les enfants. Et mon père a dû m'amener voir un concert de jazz ou je ne sais quoi. Et moi, ça m'a fait triper cet instrument.
Parce qu'il était plus grand que vous ?
Ben ouais, puis il avait un truc un peu percussif, un peu rigolo, quoi. Je sais pas pourquoi ça me faisait rire, mais en tout cas, j'ai oublié cet épisode. J'avais demandé sûrement à en faire, on m'a dit oui plus tard, parce que bon, voilà, contrebasse, je pense pas qu'on faisait des formats petits à l'époque.
Il y a pas des contrebasses pour les enfants,
c'est souvent, c'est un instrument qu'on commence un peu plus tard. Peut-être maintenant, c'est plus le cas, mais je pense qu'à mon époque, c'était le cas. Et la contrebasse, je pense que c'est un truc auquel on peut aller plus tard faire, voilà. Bon. Tu sais, il y a beaucoup de dodi. Bref, tout ça pour dire que c'est revenu au moment où je cherchais un autre instrument. J'étais pianiste de formation. J'avais 20 et quelques années. Je ne m'étais pas réconciliée avec le piano classique. Et je n'arrivais pas, voilà. Et je me suis souvenue de ça. Ça a été un espèce de pop comme ça. J'ai pris un cours avec un pote. Et puis, j'ai adoré. J'ai pris cet instrument dans les bras. J'ai senti que je me sentais bien avec ça, quoi. J'avais un bébé, un gros bébé que je pouvais bercer. Voilà, j'étais très contente.
Vous dansez très bien avec.
Merci.
Vraiment.
Merci.
Fait rockstar, quoi.
Je suis en train de réfléchir, je mettrais bien des petites roulettes en dessous, comme ça peut-être que je vais bientôt pouvoir.
Bon. Un mot, deux, voire quelques phrases autour du titre Nenita que vous allez interpréter avec Anthony Vision-Rit, Baptiste de Chabanex, Climen Zarkand.
Nenita, grand-mère, déjà de base, c'est une conversation rêvée avec ma grand-mère.
Rêvée parce qu'elle n'a pas eu lieu donc.
Elle n'a pas eu lieu, elle a été rêvée. Et elle interroge, voilà, cette histoire de confondre le début et la fin. Est-ce qu'on est vraiment capable de reconnaître, si je te mets une photo là, tout sous tes yeux, d'un aurore ou d'une fin de journée, d'un crépuscule ? Personne ne peut savoir vraiment si c'est le début ou la fin. Et Buyerengue, je dis Buyerengue parce que je tiens à toujours dire d'où viennent les sources traditionnelles. Le Buyerengue, c'est un rythme de la côte atlantique, chanté essentiellement par des femmes afro-colombiennes. Et j'ai découvert ça assez tardivement dans ma vie de musicienne et ça a été une révélation extraordinaire. Je vous invite à aller écouter cette rythmique qui est aussi proche géographiquement de tout ce qui est cumbia et du carnaval de Barranquilla, enfin tous ces rythmiques métissées entre amérindiens, espagnols évidemment, et puis il y a un débat encore si c'est plutôt l'Afrique, enfin les descendants d'esclaves, ou les Libanais et Palestiniens qui sont arrivés par la suite, fin du 19e, avec leur derbouka.
Vous avez fait des études de musicologie ?
Non, j'en ai pas fait, mais je tiens toujours à savoir à qui j'emprunte des choses et à le restituer. Voilà, c'est important pour moi et je me renseigne toujours sur ce que j'aime.
Merci Eda Diaz.
Merci.
primero un mentiroso. Cae primero que un cojo. Que gritos disfraza. Presumido, tu corazón habla más que das mudo, tu miedo oculto a un presumido.
Bravo, bravo, merci.
C'était la session live d'Eda Diaz aujourd'hui sur RFI dans les musiques du monde. Le concert, ce sera donc le 5 mars, c'est-à-dire demain, au Café de la Danse. Le nouvel album, le premier album, s'appelle Suave Bruta. Au son, nous avions Mathias Taylor, Benoît Le Tyran, réalisation Adrien Toureau.
La session live. Musique du monde. Sur
nos nouveaux invités sont Tonnerre et Bikai, et là j'entends des petites voix inquiètes qui se disent mais c'est qui ? Alors on dit pas c'est qui, on dit qui sont-ils, s'il te plaît. Il y a donc Bonnie Bikai, un Congolois épris de musique électronique et de krautrock allemand qui fait de redoutables expérimentations depuis plus de 40 ans. Puis de l'autre côté, il y a le groupe français Tonnerre qui connaît son syncopé et ses basses à relever les morts par cœur de Lagos à Chicago. Ensemble, on va décoller pour une grand-messe, mi-figue, mi-païenne. Tonnerre et Bikai sur RFI dans la session live.
C'était Tonnerre Bicaille sur RFI dans la session live.
Music du monde. La session live. Sur RFI.
Guillaume Gilles, dit 2G, 2J, était au clavier, au synthétiseur, Johan Dubo, aux machines et à la basse, Olivier Viadero, aux percussions, Bonnie Bicaille, le chant, Gaël Salomon, aux percussions et Guillaume Loisillon, au synthétiseur. On a les deux Guillaume à table et Bonnie Bicaille. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir.
Alors, cet album s'appelle It's a Bomb. Je ne sais pas qui a trouvé ce titre, mais je vais me diriger vers Guillaume Loisillon et vers Bonnie Bicaille pour parler peut-être de la genèse de cet album, parce que j'ai vu un peu des papiers vous concernant tous les deux pour ce disque. C'est une histoire de retraité, c'est ça, Guillaume ?
Si on veut, mais enfin.
Si on veut.
Je ne l'ai pas vécu comme ça. Je ne sais pas si Bonnie l'a vécu comme ça. Parce que, certes, il y a un aspect départ à la retraite, me concernant. Pas comme musicien, comme enseignant. Et on va faire de la musique. Et avec Bonnie, certes, il y a eu de longs moments, de longues années où nous n'avons pas fait de musique. Mais ce n'est pas une mise à la retraite pour moi.
Vous étiez à Paris 8, c'est ça ?
Absolument, oui. Et
qu'est-ce que vous enseignez à Paris 8 ?
Bah, j'étais au département musique, j'enseignais justement les histoires de musiques électroniques, électroacoustiques, des synthétiseurs.
L'Afrique un peu ?
Pas tant que ça. L'Afrique, c'est plus, j'allais dire personnel, c'est plus une histoire à la fois une histoire ancienne et en même temps une histoire qui m'a toujours traversée. J'ai appris au sens universitaire du terme, comme étudiant des musiques africaines, en fait, ce qu'on appelle toujours les musiques traditionnelles. Et pendant très longtemps, pour moi, la musique, très longtemps, j'ai 66 ans, jusqu'à ce que j'ai 25-26 ans, la musique africaine, c'était la musique traditionnelle. Mais j'ai découvert, mais de manière profonde, quand j'étais beaucoup plus jeune, justement, Fela, toute cette musique africaine dite pop, qui a progressivement quand même, je ne dis pas cédé le pas à mon amour de la musique traditionnelle, mais enfin grandement changé la perspective. Et quand j'ai rencontré Bonnie, ça en a, si j'ose dire, rajouté.
Alors vous, il y a 40 ans, quand vous êtes arrivé en France, Bonnie Bicaille, vous êtes retrouvé dans une situation assez rigolote avec un DJ de Radio Nova qui s'appelait Pierre Job et qui a pris son nom de scène Hector Zazou. Ensemble, vous avez fait un album qui s'appelait Noir Blanc. Et il se dit que ce duo est sorti trop tôt pour le grand public. C'est-à-dire que vous, étant originaire du continent africain, ce qui paraît complètement absurde, enfin bon, voilà, on ne vous imaginait pas dans un monde électro. Il fallait venir avec un djembé ou un balafon. Là, on vous aurait pris au sérieux. C'est ça un peu l'idée.
Exact.
Comme Relema quand il veut faire de la musique classique occidentale. Ça pose encore des fois problème.
Mais oui, c'est tout à fait exact dans ce sens où, même d'ailleurs, Zazou avait cette franchise avec moi. Zazou me disait, Bonnie, ça va être dur, ça va être difficile parce qu'on n'attend pas d'un Africain qui vienne faire des musiques avec des machines ou de l'électronique qui s'intéresse à ce genre de choses. Donc, c'est nettement plus simple pour toi de faire du reggae ou à la limite d'essayer de faire du jazz, quoique les Américains ne sont pas très ouverts aux artistes africains qui prétendent faire du jazz et tout ça.
Est-ce qu'avec ce nouveau projet, Tonnerre Bicaille, vous avez le sentiment d'être sorti du purgatoire ? Et purgatoire pour vous, c'est les musiques du monde ?
Bon, les gens se plaignent toujours des machines. Ils pensent que les machines ne sont pas à même de faire certaines choses que font les musiciens traditionnels, notamment les Africains. C'est pourquoi ils sont très durs par rapport à cela. Donc, lorsqu'on sort ne fût-ce qu'un synthé, ils commencent à se dire, mais non, ça, c'est pas pour nous, ça, les synthés. Attends, ils ont des synthés, ils ont des ordinateurs, mais non, ils vont tout, non, ils vont tout bousiller, ou en tout cas, ils vont tout mettre dans des boîtes et tout ça. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, au niveau des sons, on a des vrais sons, de vrais instruments, le sampling, tout ça, tout a évolué. Aujourd'hui, vous prenez un vrai instrument et vous le mettez dans la boîte, vous venez, ben, vous le reproduisez sur scène et tout ça. Donc ça ne devrait plus poser de problème, mais ça, certains ne le savent même pas. Ah.
Banadisco, c'est extrait de ce nouvel album qui s'appelle Tonnerre Bicaille. L'album s'appelle It's a Bomb. Autour de la table, nous avons Guillaume Loisillon, Bonnie Bicaille et Guillaume Gilles. Alors Guillaume, c'est le plus jeune autour de la table.
Oh, bah, et... Putain, mais...
Bah, un petit peu. C'est chez vous que le projet s'est un peu enregistré. Vous avez travaillé sur les arrangements. Racontez-nous un peu l'histoire aussi de Tonnerre, votre trio. J'ai vu des vidéos de vous au Transmusical, je crois que c'était en 2021, 2020. C'est un groupe assez neuf, en fait.
Ouais, on a monté ce trio, qui est donc un trio électronique et assez hybride déjà. Hein.
On dit psychédélique, mais moi, psychédélique, ça fait penser aux États-Unis des années 60 et la drogue.
Il y a des parts de psychédélisme, c'est plutôt dans les nappes, dans les sons, dans les réverbérations, dans les délais. Donc, et bon, voilà, c'est un groupe qu'on a voulu dance floor, qu'on a voulu en phase avec la culture électronique de musique de danse. Après être passé par beaucoup d'autres projets, plutôt de rock, garage, de différentes musiques d'ailleurs, de jazz aussi, de rocksteady jamaïcain. Enfin, on a fait beaucoup, beaucoup de musique, mais c'est vrai qu'après une expérience avec un groupe qui s'appelait Syracuse, dans lequel on faisait déjà de la musique de club, on a voulu poursuivre cette expérience-là et donc fonder ce trio Tonnerre, qui est donc un mélange de sons électronique, de son acoustique, de son électrique, et de créer une musique qui puisse être improvisée, qui puisse se développer aussi avec les gens qui font partie de la fête, les gens qui sont là pour danser. Donc beaucoup d'improvisation, des thèmes, des mélodies, du développement et des rythmes qu'on empruntait pas mal à certaines traditions africaines.
Genre.
Beaucoup de musique nigériane, mais pas, je dis traditionnelle d'ailleurs, mais plutôt soul-funk nigérian en fait. Hein. Et des expérimentateurs comme William Onyebor qui déjà mélangeait machines occidentales et divagations mélodiques amusantes aussi. On voulait y trouver un peu de fun, quoi, ça s'amusait là-dedans.
Je vous avais plutôt entendu chanter en Lingala ou en Kikongo. Puis alors sur un des titres de l'album, Bonnie Bicaille, vous dites bonjour, bonsoir. Je vais vous raconter l'histoire de la forêt et des dieux. Au commencement, il était seul, mais vraiment seul. Il faut dire aussi qu'à la fin, il le sera également. Un peu de français, vous nous emmenez dans une forêt, un voyage initiatique. Sur les autres titres, je ne sais pas dans quelle langue vous vous sentez le plus à l'aise. Est-ce que ce sont des sons ou est-ce que ça a du sens?
Tout est question de sonorité, parce que toutes les langues ne sonnent pas de la même manière, donc selon les accents et aussi selon l'intention que l'on veut faire passer. Le Lingala est en créole, en fait. Le Lingala que nous parlons, nous les citadins, nous les gens de la ville, n'est pas celui qui est parlé dans la brousse, hein, dans la forêt. Elle vient donc du Nigeria, du Ghana, du Cameroun, tous ces gens-là... arrivent jusqu'au Congo. Le Congo est en fait vraiment le centre de l'Afrique. Les Congolais ne le perçoivent pas ainsi, mais ils ne comprennent pas que le Congo est le pays le plus créole, le plus métissé de l'Afrique. Il y a de tout au Congo. Lorsque je m'exprime en Lingala, j'essaye de mon mieux de prendre le vrai Lingala.
Et alors, sur le titre Balobi, dans quelle langue et qu'est-ce que vous racontez?
Alors, Balobi, c'est en Lingala aussi. Et donc, l'histoire, c'est aujourd'hui, tout le monde nous parle de Dieu. Dieu est devenu un commerce. Tous nous promettent le paradis, mais eux, en contrepartie, ils veulent du numéraire, ils veulent du pognon.
Le 13 mars, vous serez au Petit Bain, donc avec la formation qu'on a aujourd'hui dans ce grand studio, Guillaume.
Oui.
Guillaume Loisillon qui se réveille.
Non.
Je plaisante. Vous avez bien vu qu'on s'amusait.
Oui,
un peu.
Tonnerre Bicaille, c'est alors pour des raisons, plein de raisons, c'est aussi un groupe un peu à géométrie variable. Et là, donc le 13 mars au Petit Bain à Paris, ce sera le groupe au grand complet, c'est-à-dire nous six.
Six sur scène.
Bien sûr, on est six.
Oui.
Les deux Guillaume sont d'accord.
Oui.
Bon, je propose à Guillaume Gilles, à Johan Dubo, Olivier Viadero, Bonnie Bicaille, Gaël Salomon et Guillaume Loisillon de se mettre en place pour le titre Balobi dans la session live.
C'était la session live de Tonnerre Bikai avec l'album It's a Bomb. Concert le 13 mars au Petit Bain. Le son a été fabriqué par, enfin par vous évidemment, Tonnerre Bikai, mais aussi par Mathias Taylor et Benoît Le Tyran. Réalisation Adrien Toureau. Merci à vous.
Merci.